Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Le maréchal Lyautey a surtout été un conquérant. Conquérant pacifique. N'est-il pas en effet le seul soldat qui ait une ambition de conquérir les hommes plutôt que les terres, selon les coutumes et les traditions de pays aussi différents que le Maroc et l'Indochine.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Près d'un demi-siècle après l'affaire Ben Barka, qui fragilisa pour longtemps les relations entre le Maroc et la France, on vient d'assister à diverses escarmouches diplomatiques, de bien moindre importance certes, mais dont cependant la concomitance est propre à irriter spécialement Rabat et a fait la une des journaux dans le royaume chérifien. Le partenariat d'exception, qu'on est accoutumé de saluer des deux côtés de la Méditerranée, s'en est trouvé bousculé. Et comme il advient toujours, les turbulences de surface donnent à connaître plus profond sur les tendances et les forces du long terme. L'occasion est bonne, par conséquent, de revenir en arrière en s'interrogeant sur l'actualité de cet acteur essentiel que fut le maréchal Hubert Lyautey, qui promut, modela et incarna le protectorat français au Maroc. Il s'agit d'un cas assez rare, celui d'un personnage majeur d'une colonisation dont la figure n'est pas honnie, ou au moins dénigrée, par les générations qui ont obtenu ou suivi l'indépendance. Sa trace demeure forte, et son œuvre contribue encore à marquer bien des aspects des relations entre nos deux pays. Arnaud Tessier, qui est devant moi, s'est fait le biographe de Lyautey. Ancien élève à la fois de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration, il se partage entre une carrière de haut fonctionnaire et une vocation d'historien. Avec lui, nous allons redonner vie, je l'espère, à la figure paradoxale d'un homme dont Daniel Halévy a pu écrire « Ce royaliste sans roi se créa au Maroc un royaume et le donna à la France, c'est-à-dire à la République ». Et d'abord un autre regard, celui de Jean Cocteau en 1955.
Le maréchal Lyautey était affublé d'une enveloppe ingrate. Car cet homme qui refusait d'être traité de militaire et s'écriait « Je ne suis pas un militaire, je suis un soldat » possédait, sculpté à la hache, une grosse tête où, sauf le regard, tout allait de traviole. Or, la France, messieurs, a toujours cru que l'égalité consistait à trancher ce qui dépasse. La grosse tête à cheveux en brosse était bien tentante. On égalisa parce qu'elle dominait fièrement le couvre-chef des joueurs qui dispute la partie au café du commerce, car un feu superbe habitait cette carcasse trompeuse. L'islam tombait en ruine. Louis, Hubert, Gonzalve, Lyautey ne replâtraient pas les ruines, ils rebâtissaient. Et dans le sens même où l'islam eut bâti, mariant par l'amour deux civilisations, deux contrastes. Il fallait voir quitter son peuple en larmes sur le dreadnought offert par la flotte anglaise, ce petit homme drapé d'or et de la seule pourpre qui compte, teinte du sang de qui s'en drape. Pour l'islam, le maréchal Lyautey aurait donné son sang. En 1916, après la fête arabe qui l'avait intéressé, le maréchal invite les frères au Maroc et se les attache. À quel titre? Là, messieurs, vous reconnaîtrez ce chef qui jamais n'eût jeté au massacre le meilleur des jeunes esprits de France. Il les enrégimente à leur poste, comme écrivains. Vous agirez, leur déclare-t-il, à votre guise, ce qui veut dire, au lieu de vous sacrifier, vous donnerez le meilleur de vous-même. Voilà le style de cette âme exemplaire qui sut trop bien comprendre la différence qui existe entre respecter une race et la réduire en esclavage, entre la colonisation et le colonialisme.
Arnaud Tessier, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un extrait du discours de Jean Cocteau lors de son entrée à l'Académie française le 20 octobre 1955. Il succédait à Jérôme Tarrouille, ses deux frères qui étaient notoires à l'époque, Jean et Jérôme Tarrouille, et qui avaient collaboré avec Lyautey, d'où l'occasion saisie par Cocteau de faire surgir devant ses auditeurs, sous la coupole, la figure du maréchal qui va nous occuper aujourd'hui. Vous le reconnaissez, votre Lyautey, après avoir beaucoup travaillé sur lui, Arnaud Tessier ?
Alors la description physique est peut-être un peu forcée. Comme toujours, Cocteau se représente lui-même à travers Lyautey, la grosse tête, les choses. Il y a un certain nombre de traits qui sont un peu surprenants.
De traviole, dit-il.
Voilà.
Vous avez aussi un sourcil quand vous avez entendu cette formule, de traviole.
Lyautey a surtout laissé l'impression de quelqu'un qui avait beaucoup d'élégance et de tenue, beaucoup de style. Par contre, c'était quelqu'un de très agité. Quand on voit les rares films d'époque où on l'aperçoit, c'était quelqu'un de très agité, de bouillonnant, qui donnait des ordres tout le temps, qui s'intéressait à tout, qui était extrêmement, par moments, extraverti. Et je pense que c'est ça qu'a voulu rendre Cocteau, ce côté véritablement bouillonnant que Lyautey exprimait.
En écrivant la biographie de Lyautey, vous saviez d'entrée de jeu qu'elle serait accueillie forcément différemment en France et au Maroc. Je serais curieux de savoir, dans le cas du royaume chérifien, comment votre livre a été reçu. Est-ce que cette réception a pu informer sur ce qu'incarne encore aujourd'hui, votre livre est de 2004, ce qu'incarne encore aujourd'hui Lyautey au Maroc ?
Écoutez, j'ai été invité à plusieurs reprises à la télévision marocaine, à une émission assez extraordinaire où il y avait des intellectuels marocains tout à fait en vue et qui, sur le plateau, exprimaient une vision assez critique, quoique très mesurée, de Lyautey, en lui reprochant surtout d'avoir maintenu la société marocaine dans un certain conservatisme. Mais enfin, laissant transparaître par moments quand même la considération qu'on pouvait lui porter. On voyait tout de suite que ce n'était pas l'oppresseur colonial. Et puis, dès l'émission terminée, en discutant avec eux, beaucoup plus librement, mais peut-être comme l'auraient fait des intellectuels français sur d'autres sujets, ils se sont mis à dire des choses enthousiastes sur Lyautey, à dire qu'ils avaient été visiter sa maison à Toré, enfin, évoquer ce personnage extraordinaire. Et on voit que ça occupe une part très importante, en réalité, très, très ambiguë, parce qu'en fait, il y a un côté... Le personnage de Lyautey est à la fois très présent encore dans les élites marocaines, mais en même temps une présence un peu oppressante, car il a joué un rôle tellement important dans la construction du Maroc moderne qu'on peut le comprendre. Lors d'une autre visite, il y a eu un épisode assez émouvant.
Lequel ?
J'ai été invité à faire une conférence, une petite présentation, devant des élèves de 4e et de 3e au lycée français de Casablanca. Et il y avait des enfants, des adolescents qui étaient marocains ou français. Et au début, avant de commencer à faire mon petit exposé, je leur ai demandé ce qu'évoquait le nom de Lyautey pour eux. Et il y a un petit garçon marocain qui se levait et qui m'a dit « C'est un homme qui respectait la religion et les traditions du Maroc ». Et j'ai trouvé ça extraordinaire car c'est précisément ce que Lyautey avait voulu faire graver sur sa tombe au Maroc. Et cela était passé à travers les décennies jusqu'à cet enfant. C'était assez frappant quand même.
Il y a cette fameuse épitaphe qu'il a choisie pour lui-même. « Ici repose Louis-Hubert Lyautey, qui fut le premier résident général de France au Maroc, 1912-1925, décédé dans la religion catholique, dont il reçut en pleine foi les derniers sacrements, profondément respectueux des traditions ancestrales et de la religion musulmane, gardée et pratiquée par les habitants du Maghreb. » On a là, aussitôt...
Il y a tout, parce qu'il évoque son appartenance à la religion catholique, et ça, c'est toute la dimension... de la vision de Lyautey des rapports entre les civilisations, des rapports avec l'islam, puisqu'il a dit à maintes reprises que s'il voulait être respecté des autres civilisations, notamment lorsqu'elles étaient très différentes sur le plan religieux, artistique, intellectuel, il fallait d'abord les respecter profondément et véritablement, mais il fallait aussi leur montrer qu'on respectait ce qu'on était soi-même et qu'on ne pouvait pas y avoir de respect mutuel si on ne se respectait pas soi-même, ce qui est un message qui, je trouve, aujourd'hui encore, a une certaine pertinence et une certaine force.
Il me semble qu'en effet, dans un certain nombre de pays, nous avons l'occasion de nous poser ce type de questions. La présence américaine, par exemple, ou française, d'ailleurs en Afghanistan, donne l'occasion d'y réfléchir chaque fois qu'il y a contact entre une civilisation occidentale et une civilisation de l'islam.
Et puis même pour nous, Français, la République a besoin d'histoire. Lyautey était un homme qui portait cela avec lui aussi.
les relations étaient au niveau que vous dites, et nous allons les évoquer, entre la France et le Maroc par l'intermédiaire de l'IOT. On a pu avoir en effet le sentiment que tout récemment, les petits agacements, petites escarmouches qui sont survenues nous plaçaient à un niveau fort inférieur. Il y a eu ce ministre marocain qui a été maltraité au passage d'une escale à l'aéroport de Roissy. Et puis il y a eu ce mot qui a été prêté à un ambassadeur de France et ensuite démenti. Le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, dont on n'est pas particulièrement amoureux, mais qu'on doit défendre. On peut dire que l'IOT, lui, était amoureux du Maroc.
Ah, il était profondément amoureux du Maroc, il a même voulu y être enterré.
Alors nous allons retracer son destin, nous interrogeant chemin faisant sur ce qu'il peut avoir à nous dire aujourd'hui du point de vue des problèmes que nous devons affronter. Un mot pour commencer tout de même sur le milieu, sur la formation. Il n'est pas né dans un milieu spécialement républicain et cela évidemment était important pour la définition de sa vision du monde.
Par son père, c'était une famille de militaires et de hauts fonctionnaires. Par sa mère, une famille de l'aristocratie normande. Et on était un peu bonapartiste du côté de son père, plutôt royaliste du côté de sa mère. Et lui, par tempérament, il était monarchiste. Il aimait la monarchie, il aimait le souvenir de la royauté, il aimait le prestige de la monarchie. Il avait le plus grand mépris pour la Troisième République telle qu'elle se dessinait. C'est un enfant qui, ayant été immobilisé par un accident quand il était tout jeune, et donc ayant passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence avec un corset au lit, comme paralysé un petit peu dans sa vie quotidienne, a beaucoup lu d'histoire, et l'histoire de la monarchie, pour lui, c'était la France. Et donc, il avait cette sensibilité monarchiste qui rend d'autant plus paradoxale l'œuvre administrative et politique remarquable qu'il a faite au service de la République, puisqu'il a servi la République, comme le dit Halévy, magnifiquement.
Pourquoi j'ai choisi ce mot comme épigraphe pour notre émission, ce mot de Halévy? Cela a été une tension dans sa vie d'homme actif qui a été constante.
Oui, parce qu'il pensait que la République était un régime qui était incapable d'avoir des vues de long terme, contrairement aux autres puissances européennes gouvernées par des monarchies, et même l'Angleterre, même si c'était une monarchie d'un certain type. Il considérait que la France ne pouvait pas avoir de vues à longue portée, mais ça ne l'empêchait pas de fréquenter abondamment les milieux républicains, ça ne l'empêchait pas de réfléchir à l'émergence d'un grand parti conservateur. En réalité, il était plein de contradictions. Il lisait l'Action française, mais il n'aimait pas quand l'Action française s'en prenait à des figures républicaines qui étaient ses amis. Il faisait plier, à partir d'un certain moment, l'Action française de manière à ne pas voir la chronique de Léon Daudet, parce que Léon Daudet avait attaqué Joseph Reynac, grande figure républicaine et dreyfusarde, que Lyoté aimait beaucoup.
Un gambettiste.
Voilà. Et pourtant, voilà, il lisait l'Action française, mais on l'a plié en moitié.
Et on ne pouvait pas faire une carrière de militaire majeur si on n'avait pas le soutien d'un certain nombre de personnalités politiques, civiles, comme il était naturel. Il choisit en effet la carrière des armes, Saint-Cyr, en dépit de ses difficultés physiques du début. Et il va vivre pendant un certain temps la vie de garnison, un peu ennuyeuse, on peut bien le dire, du jeune lieutenant, puis capitaine, avant de découvrir les colonies en Indochine avec Gallieni et ensuite en Algérie. Et ses réactions sont intéressantes à cet égard pour la suite.
Il a beaucoup hésité, en fait. Au début, il a hésité entre... Il croyait avoir une vocation religieuse, il a été la grande chartreuse, et puis au bout d'un certain temps, il a dû se résigner à l'idée qu'il n'avait pas cette vocation.
Sinon, je vous aurais invité pour traiter du cardinal Lyautey.
Voilà. Non, il était très fasciné par la personnalité de Charles de Foucault, qu'il a rencontré plus tard. Il y a toujours eu cette frustration chez lui, mais qui en dit long sur son tempérament. Et puis, il avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Il a eu des postes en Afrique du Nord comme militaire dans sa jeunesse, mais qui alternaient avec des postes de garnison où il s'ennuyait profondément. Et pour lui, la vraie vie, c'était l'Afrique du Nord, le soleil, l'espace, la chaleur, qui le changeait de son climat nancéen et de ses souvenirs de claustration d'enfant. Donc il y a toute cette aspiration vers le grand large, et c'est un petit peu par hasard, en fait, pour différentes circonstances, qu'il a été envoyé en Indochine, alors qu'il avait déjà une quarantaine d'années. Et là, c'est comme si le monde prenait une autre dimension, d'abord parce qu'il va découvrir des paysages extraordinaires, il va découvrir un pays en mouvement, où la France s'implante politiquement depuis peu, et puis il va découvrir ce personnage extraordinaire qui est Gallieni, le colonel Gallieni, qui est une sorte d'aventurier intellectuel incroyable, et qui va le former à la technique d'approche des populations colonisées d'une manière tout à fait originale.
En posant aussitôt la question des relations entre la puissance colonisatrice et un système qui s'enracine dans la très longue durée et qui est loin d'être primitif ou barbare. Et par conséquent, il se pose la question qu'il aura à se poser ensuite, comment s'accommoder de la concomitance, de la coexistence de deux forces politiques, de deux civilisations différentes.
Gallieni lui apprend ceci, et puis Lyautey l'apprend aussi dans la vie quotidienne, dans ses postes. Il l'apprend en Indochine, il va l'apprendre ensuite encore mieux en suivant Gallieni à Madagascar. C'est cette idée que d'abord, il faut respecter encore une fois la civilisation, et l'Indochine, pour lui, c'est une civilisation, c'est plusieurs civilisations même. Et puis cette idée que Gallieni lui infuse véritablement, qui est que la colonisation, ce n'est pas un rapport de force pure. Il faut se faire respecter et apprécier des populations en leur montrant qu'on ne leur apporte pas seulement une tutelle politique, mais une protection, notamment au Tonkin contre les pirates, contre les brigands. On leur apporte une protection physique aux paysans, on leur apporte des dispensaires, on leur apporte des écoles. Ce qui est important pour Gallieni, que Lyautey, idée que Lyautey reprendra ensuite, ce n'est pas tellement la garnison qu'on installe, mais c'est le marché qui va s'installer le lendemain, là où on a pris position. Le marché, l'école, le dispensaire. Voilà. Donc c'est une vision qui, à l'époque, est tout à fait neuve et assez différente de la vision anglaise de la colonisation.
Enfin, c'est une colonisation vue comme mouvement, oui. Et non pas comme immobilité destinée à durer définitivement, pas du tout.
Cette idée qui domine un petit peu l'esprit de Gallieni et de Lyautey, c'est que de toute façon, on ne peut pas gouverner des colonies et encore moins des territoires sous protectorat par une sorte de pure chaîne de force, de contrôle militaire et social, et que tout cela n'a pas forcément vocation à durer éternellement. En cela, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Lyautey comme Gallieni souscrivent quand même, Lyautey malgré ses opinions monarchistes, un peu à cet idéal républicain, qui est l'idée que l'expansion coloniale est un facteur d'expansion de certaines formes de progrès. Pour les républicains, même de formes de civilisation, pour Lyautey, il est un peu plus réservé, parce qu'il n'a pas une idée absolument très nette qu'il y ait une civilisation supérieure à une autre. Mais par contre, l'idée que le progrès puisse être apporté à d'autres terres est importante pour cet homme qui, tout en étant très conservateur par certains côtés, très traditionnaliste, est fasciné par les États-Unis, par exemple.
À cet égard, évidemment, son séjour en Algérie est également important, puisque l'Algérie va apparaître comme une sorte de repoussoir par rapport au Maroc, puisque se pose aussitôt la question de la place des colons. C'est une colonie de peuplement, l'Algérie, à la différence de l'Indochine et du Maroc. Et là, on est déjà au cœur de la réflexion de Lyautey, lorsque, après avoir été en Algérie et avoir constaté le rôle, à ses yeux, souvent néfaste des colons, l'idée que ça pourrait être un jour des départements français, il devient résident général au Maroc en 1912, avec l'appui de personnalités républicaines, bien sûr, qui ont été frappées par son tempérament, par son panache, par son inventivité, par son goût de l'action.
Oui, il était porté, notamment par Charles Jeunard, qui était gouverneur général de l'Algérie, qu'il a rencontré un jour dans un dîner, qui était complètement séduit par sa personnalité, et qu'il a littéralement imposé au gouvernement français, au ministère des Affaires étrangères, qui regardait avec beaucoup de méfiance cet officier d'esprit un peu indépendant, assez emporté, cultivé, en même temps très mondain et entretenant grâce à une correspondance d'une richesse exceptionnelle, tout un réseau de relations politiques, littéraires, intellectuelles qui l'ont beaucoup servi pour faire passer ses idées et aussi pour se faire connaître. C'est aussi un homme qui a de l'ambition. Il redoute parmi toutes choses l'ennui, l'inactivité, la vie de garnison qui lui fait horreur. Et donc, il veut des responsabilités, et il veut des responsabilités en Afrique du Nord.
Pour ouvrir ce moment de notre conversation, qui va être consacré à Lyautey au Maroc, ce qui est l'essentiel, je vais vous donner à entendre un propos d'André Mauroy, le 26 avril 1961.
Le Maroc, tel qu'il avait existé avant Lyautey, n'était pas organisé. Lyautey, on avait fait un grand pays, le grand pays que le Maroc est aujourd'hui. Et partout, à Casablanca, à Marrakech, à Rabat, j'ai pu voir les monuments, non seulement qu'il avait fait construire, mais aussi, surtout, ceux qu'il avait fait conserver, car Lyautey avait un profond respect pour l'art marocain, pour la civilisation marocaine, et il tenait essentiellement à ce que le Maroc gardât son originalité. Et le résultat était qu'il était aimé partout, et authentiquement aimé. Il était un homme prodigieusement actif, tellement actif que dès qu'il n'avait rien à faire, il s'ennuyait. Et il lui fallait, il disait d'ailleurs lui-même, je suis un animal d'action. et j'ai besoin de beaucoup d'actions à broyer pour me nourrir. Et en effet, il lui fallait construire des villes, construire des pays. C'était pour ça qu'il était fait. Et il était toujours partisan de l'action immédiate. J'ai souvent raconté cette anecdote, mais il faut la raconter parce qu'elle est belle, de Lyoté voyant une forêt de cèdres qui avait été démolie par un ouragan et disant au directeur des forêts qu'il suivait, il faudra me faire replanter tous ces cèdres. Et le directeur lui disant, monsieur le maréchal, c'est pas la peine, un cèdre, ça met 2000 ans pour pousser. Et le maréchal lui a répondu, 2000 ans? Alors il faut s'y mettre tout de suite.
Il faut rappeler que Lyoté a été installé au Maroc par un régime souvent critiqué pour son instabilité, notamment par Lyoté lui-même, pour une très longue durée. Il a donc eu le loisir de mettre sa marque.
Il a eu 13 années de présence au Maroc avec une brève interruption lorsqu'il est devenu ministre de la guerre à la fin de 1916 et au début de 1917, expérience qui fut d'ailleurs très peu concluante. Et donc il est retourné au Maroc aussitôt.
Il n'était pas fait pour être efficace, notamment dans l'hémicycle, la Chambre des députés.
Il ne savait pas passer la main dans le dos des parlementaires. Enfin, il ne savait pas faire à Paris, à la Chambre des députés, ce qu'il savait faire au Maroc. Ça a beaucoup étonné ses collaborateurs. Visiblement, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait qu'une idée, c'était rentrer au Maroc, d'autant que il avait voulu participer à la guerre, mais quand il a vu qu'au ministre de la guerre, il n'avait quasiment pas de moyens d'action et que le plan Nivelle était déjà décidé, etc., il s'en est vite désintéressé.
Alors les grandes lignes de sa philosophie et de son action au Maroc, puisque c'est un animal d'action, comme Moreau le rappelle.
Alors Lyoté, d'abord, il arrive au Maroc avec une expérience, donc puisqu'il a connu l'Indochine et Madagascar, mais et l'Algérie. Et donc, il connaît des terres différentes, mais il sait ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, il sait que le Maroc est une terre ancienne, avec une histoire, un État, avec une histoire politique très ancienne, avec une civilisation très affirmée. Et donc, il ne s'agit pas de traiter le Maroc comme n'importe quel territoire. Ça, il en a conscience tout de suite et il essaie de faire passer cette idée auprès des autorités françaises en disant « Attention, le protectorat, ça ne doit pas être un simple jeu de rôle. Il faut que ce soit quelque chose de sérieux. » Et donc, le premier effort qu'il va mettre en œuvre dans la première phase, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 1916, avant qu'il parte pour cette courte période à Paris, ça va être de mettre en place des réformes considérables au Maroc. La première d'entre elles étant de restaurer le prestige du sultan, de restaurer, autant que faire se peut, la crédibilité de l'administration marocaine, le Marzen.
Qui était parti un peu en capilotage.
Parce que l'État marocain était un peu en morceaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait fait l'objet de toutes sortes de convoitises internationales avant que la France n'emporte finalement le protectorat au Maroc. C'était un pays d'ailleurs où il y avait encore des zones entières qui échappaient au contrôle de l'administration du sultan. Donc il installe un nouveau sultan, un membre de la famille royale, Mouly Youssef, qui était un homme déjà d'un certain âge, plein de qualités, mais qui l'a en quelque sorte formé. C'est-à-dire, il l'a formé à son métier de roi, l'a aidé à prendre possession pleinement de ses fonctions, mais avec toujours ce jeu étrange, c'est-à-dire qu'il l'a formé, il l'a aidé, il a assis son autorité, mais en même temps, il a appris au sultan à prendre possession de son personnage. Et ensuite, il lui a marqué, avec sincérité, le respect que lui devait le résident général et que lui devait l'administration du protectorat. Et il y a un écrivain d'ailleurs qui a relaté cette métamorphose avec beaucoup de force, c'est l'américaine Edith Wharton, qui est venue au Maroc, qui a rencontré Lyoté, qui a rencontré le sultan, et qu'il y a une scène extraordinaire où elle montre le sultan qui décroche son téléphone, et elle dit c'est véritablement le symbole même de ce que fait le général Lyoté au Maroc, c'est-à-dire il modernise le Maroc et en même temps il met en évidence le prestige du sultan.
Il reste à pied devant le cheval du sultan en prenant sa bride.
Et tout ça était... Chez Lyoté, il y avait toujours du théâtre, mais ce théâtre était toujours l'habillage d'une profonde sincérité. Ce n'est pas simplement un jeu de rôle, encore une fois, une apparence. Il veut véritablement reconstruire un État marocain qui tienne debout, de façon à ce qu'un jour, cet État marocain soit à même de prendre la succession de la France lorsque le protectorat prendra fin.
Donc le royaume chérifien d'aujourd'hui est directement dans la ligne de ce qu'avait souhaité Lyoté et on comprend qu'il se le rappelle.
Ah oui, et puis je crois que le petit Hassan II, quand il était enfant, qui est allé avec son père voir Lyoté à la fin de sa vie dans son château lorrain, il y a une photo extraordinaire où on voit le petit futur Hassan II qui est juste devant le maréchal, qui c'est une scène inouïe, on voit l'histoire qui s'enchaîne. Véritablement, on peut considérer qu'il a très largement rebâti la monarchie marocaine, et c'est ce que dit d'ailleurs Mauroy fort justement. Et puis, tout en ayant une situation assez compliquée au début, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à partir de 1914, la France est en guerre en Europe.
On n'a plus guère de troupes.
On retire à Lyoté une bonne partie de ses moyens militaires, alors que le pays n'est pas vraiment pacifié. Donc il va essayer à la fois de maintenir la situation politique et de la stabiliser, tout en développant des réformes importantes. Et des réformes dans tous les domaines, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture, et puis dans le domaine de l'urbanisme, avec une idée fondamentale qui est extrêmement importante pour comprendre la sensibilité, la vision de Lyoté, qui est qu'il faut absolument respecter la ville indigène, et donc la ville européenne sera construite à côté, mais on ne mélangera pas le mode de vie indigène et le mode de vie européen. On ne fera pas l'erreur, dit-il, qu'on a commise en Algérie, qu'il a vue de ses propres yeux dès son premier voyage de jeune homme en 1878.
Alors qu'un de ses prédécesseurs militaires au Maroc avait souhaité profiter d'une révolte à Fès pour tirer des coups de canon sur la Médina, pour se débarrasser définitivement de cet entre-là de rues difficiles à pacifier.
Il a une approche vraiment qui paraît incompréhensible à beaucoup d'observateurs et qui inquiète beaucoup des milieux comme ceux des colons d'Algérie, par exemple, qui voient le Maroc plutôt comme une terre à coloniser. Et là, Lyoté, alors pendant la première phase du protectorat, et puis après son retour de France en 1917 plus encore, va s'efforcer de protéger les terres collectives marocaines de toute colonisation de masse et de toute tentative de regroupement des terres en grands domaines. Et donc il va arriver, avec une certaine difficulté, à protéger la structure du sol traditionnel marocain, de même qu'il protège le patrimoine artistique exceptionnel et urbanistique du Maroc, même dans le domaine de la justice, tout en installant une justice moderne, parce que c'est un homme moderne, il fait en sorte que la justice locale ne disparaisse pas et que pour un certain nombre de contentieux impliquant les indigènes ou les relations entre les indigènes et les Européens, la justice marocaine continue de fonctionner.
Il accepte la charia, ce qui est intéressant voilà. Vu d'aujourd'hui.
Oui.
Il y a toute une réflexion, en somme, sur la coexistence, éventuellement sur la cohabitation des deux civilisations musulmanes et républicaines ou chrétiennes.
Et cela, les Marocains s'en souviennent. Les Marocains l'ont senti à l'époque. Il y a un épisode qui est très frappant. À la fin du protectorat, Lyoté était très malade. Il a eu une hépatite très grave et on a cru qu'il allait mourir. Et il y a eu des prières. On a prié au Maroc, à Fès. Tout le monde a prié en évoquant une menace pour l'islam. Enfin, c'était un événement majeur. Et Lyoté a survécu.
Les prières ont donc été efficaces.
Elles ont été efficaces. Et Lyoté a survécu. À l'issue de son rétablissement, il m'a proposé de venir à la mosquée de Moulay Idriss pour célébrer un petit peu cet épisode et cette guérison. Et il avait, bien sûr, il a accepté, mais il a dit « j'irai d'abord à la chapelle catholique ». Et ça, c'est tout Lyoté, c'est-à-dire il voulait montrer aux musulmans que ce respect profond qu'il portait à leur religion, le fait qu'il était honoré, qu'on ait prié pour son rétablissement, qu'on ait considéré que sa mort puisse être considérée comme une menace pour l'islam, elle le touchait profondément. Mais il tenait à montrer, alors qu'il n'était pas extrêmement pratiquant à l'époque, il n'est redevenu qu'à la fin de sa vie, tenait à faire ce geste de passer à la chapelle catholique, parce que c'est toute sa philosophie, encore une fois. On n'est respecté que si on respecte, et que si on se respecte soi-même, si on respecte ce qu'on est. Tout Lyoté là-dedans. Il y a aussi un épisode qui est extrêmement significatif, c'est lorsqu'en 1915, il y a une proposition de loi la Chambre des députés, qui consiste à proposer de donner la nationalité française, de faciliter l'accès à la nationalité française des troupes d'Afrique du Nord. Lyoté s'y oppose avec une virulence extrême, en disant que ça donne l'impression qu'on octroie une sorte de récompense à des gens qui n'ont même pas demandé, et que c'est vraiment méconnaître les réalités profondes, non seulement du protectorat, mais cette relation qu'il veut équilibrer et d'égal à égal entre la civilisation française et la civilisation du Maroc. Donc il va assez loin, et il est quand même perçu assez vite, notamment lors de la deuxième phase du protectorat, où il est donc de plus en plus autoritaire, il faut bien dire, de plus en plus directif, et où il fait de plus en plus de choses. Il est vraiment perçu comme une sorte de potentat, mais par les colons d'Algérie en particulier, et par une partie de ses adversaires en France, mais aussi, en même temps comme quelqu'un qui est du côté des indigènes, dit-on, et d'où des campagnes de presse d'une violence inouïe dans la presse algérienne à son égard.
Il y a une politique qu'on appelait de la tache d'huile qui consiste à faire avancer progressivement les écoles, l'enseignement et les dispensaires également, les hôpitaux dans les territoires qui ne sont pas encore soumis. Et à cet égard, je vous propose le témoignage d'un professeur à la faculté de médecine, Paul Chaillet-Bert, sur l'œuvre médicale de Lyotet. Il est interviewé par Pierre Ichac le 26 avril 1961. Vous allez voir que c'est assez éclairant.
L'œuvre médicale de Lyotet, sa doctrine médicale, a commencé dans le sud de Madagascar, quand il a dirigé cette immense région de 1900 à 1902. Et c'est en appliquant cette doctrine que Lyotet a dit plus tard au Maroc, pour la pacification d'un pays, un médecin vaut un bataillon, c'est un des plus magnifiques hommages qu'on ait pu rendre au corps médical. Alors au Maroc, quand on occupait une région nouvelle, immédiatement, on ouvrait en premier lieu des dispensaires, des hôpitaux, des maternités, des gouttes de lait. Ça a eu un immense succès. La clientèle était extrêmement nombreuse et les résultats ont été prodigieux. Et la technique dans les zones que l'on approchait et que l'on voulait conquérir était la suivante. Il y avait une série de postes qui bordaient ce qu'on appelait le bled marzen, c'est-à-dire le pays soumis au sultan. Et dans ces postes, il y avait un service médical qui était toujours tenu par un médecin auxiliaire, un de ces jeunes médecins qui avait le grade de sous-officier et qui faisait là non seulement de la médecine indigène, mais qui, deux fois par semaine ou trois fois par semaine, selon les régions, partait à cheval. Ceux qui ne parlaient pas arabe avaient un interprète qui était un mokrasni. Et puis ils allaient dans les douars, dans les souks, dans les marchés, pour faire de la médecine indigène. Et c'était extrêmement curieux de voir qu'au début, les gens étaient un petit peu hésitants, mais que peu à peu, la confiance venait, et au moment où on allait partir, il y avait une foule de malades qui poussaient des gémissements parce que le médecin s'en allait. D'ailleurs, on les retrouvait la fois suivante.
Médecine et colonisation, c'est un grand sujet. Et puis c'est la tache d'huile dont on a parlé, Arnaud Tessier.
Oui, la tache d'huile, donc cette façon de s'installer de manière positive dans un territoire où, après tout, on peut être accueilli comme un envahisseur. Donc, amener un certain nombre d'éléments de progrès et de confort et de sécurité pour la population qu'il a appliqué en Indochine et Madagascar, en Algérie aussi, mais qu'il a appliqué aussi au Maroc, dans les zones qui étaient peu ou pas soumises en réalité, ou très difficilement soumises au pouvoir central. Il ne faut pas imaginer le Maroc du protectorat comme un État complètement quadrillé. Il y avait sur les confins des régions qui étaient sous contrôle véritable, il y avait toutes sortes de zones où il fallait s'implanter avec prudence et progressivement. Et cette idée de la tache d'huile, qui est un mode de, pas seulement de conquête, mais de présence dans un milieu qui peut être une civilisation tout à fait différente ou avec une religion tout à fait différente. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup aujourd'hui, notamment à propos de l'Afghanistan. Je sais qu'il y a des militaires américains qui se sont intéressés à Lyotet de nouveau, des Français bien sûr. Il faut savoir qu'il y a peu de temps, 3 ou 4 ans je crois, il y a une promotion de l'école supérieure de guerre qui a pris le nom de Lyotet et dans un esprit tout à fait précis, qui est de rappeler la modernité quand même de cette conception de la présence occidentale au sens large dans des terres qui sont d'une autre civilisation, d'une autre culture, d'une autre religion. Alors ça peut être dans un cadre qui n'est pas celui d'une colonisation ou d'un protectorat, dans un cadre politique plus complexe, comme on le voit aujourd'hui. Mais enfin, les chances de succès politique sont liées étroitement à la façon dont on sait comprendre une civilisation et se faire accepter d'une société. Et ça, Lyotet l'a admirablement démontré, comme Gallieni d'ailleurs, et c'est quelque chose qui revient un petit peu dans les esprits.
Avec forcément une réflexion nourrissant l'action sur le rôle des élites. Quel type d'accord on peut passer avec les cadres dirigeants? Quel cadre dirigeant pour qu'ils soient fiers de leur autorité et peut-être de leurs privilèges sans donner un sentiment d'être des collaborateurs?
Alors ça a été un des aspects importants de l'œuvre de Lyotet qui a d'ailleurs été d'une certaine manière prolongée par la politique de coopération française après l'indépendance du Maroc et qui a été très bien comprise par la monarchie marocaine. Lyotet, très tôt, s'est soucié de la formation, de la promotion des élites marocaines. Il l'a dit très tôt qu'il fallait préparer la relève, c'est-à-dire qu'il fallait, une fois qu'on avait reconstruit l'État marocain qui avait été très affaibli à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à la fois par des dissensions intérieures et puis par les menaces internationales, une fois qu'on avait reconstruit cet État marocain, il fallait en même temps, dans un même mouvement, préparer la relève en formant les élites économiques, administratives de l'avenir. Il l'a écrit dans une fameuse note de 1920 qui s'appelle la note de coup de barre. Il l'a redit.
Coup de barre, pourquoi?
Parce qu'il disait qu'il fallait donner un coup de barre à ce qui était en train de se passer, parce qu'il y avait une évolution qu'il n'arrivait plus à maîtriser à la fin du protectorat.
L'administration française qui devenait en quelque sorte figée, qui prenait plus d'importance.
Une sorte de mécanique qui l'excédait et le terrifiait, qui est que l'administration française faisait tellement de choses, l'action économique, publique, administrative était tellement forte, tout un dispositif bureaucratique qui s'autogénérait et qui laissait de côté cet aspect de la relève par les élites marocaines, musulmanes, auxquelles il tenait. Donc il a dit, il faut faire attention, on est en train de faire du Maroc une colonie, alors qu'on était dans un régime de protectorat authentique qui devait préparer l'après.
Et Lyautey saisit chaque occasion de marquer dans l'ordre du symbolique, parce que comme tout grand acteur politique, il a le sens du symbolique très très fort, de marquer que le souverain est le souverain. Par exemple, lors d'une visite solennelle qu'il lui fait, où il déclare « votre majesté, on est loin de l'Algérie avec des départements français, votre majesté peut être assurée du concours que le gouvernement de la République est résolu en vertu des accords antérieurs à lui apporter pour la pacification de son empire, le développement de ses richesses et le progrès de ses institutions dans le respect le plus complet de ses mœurs et de sa religion ».
Oui, il avait d'ailleurs, dans la même affaire de 1915, où il s'en était pris à cette proposition de loi sur la naturalisation, il avait critiqué le fait que les autorités françaises veuillent se mêler de juger à cette occasion de la question de la polygamie. Il considérait que la société marocaine, les traditions du Maroc, le mode de vie marocain, c'était l'affaire des Marocains. Ça, c'est très net. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a cette ambiguïté que j'ai évoquée tout à l'heure, des élites marocaines aujourd'hui à son égard. On admire à la fois cette sorte de respect profond qu'il a véritablement inscrit dans les faits, dans le paysage du Maroc. On le voit, ce respect que Lyautey a eu pour la civilisation marocaine. Mais on lui reproche aussi beaucoup au Maroc d'avoir un petit peu contribué à figer les structures sociales. Ce qui est un peu paradoxal, parce que d'une certaine manière, il a voulu éviter absolument, je crois que c'est vraiment, encore une fois, le repoussoir de l'Algérie, il a voulu absolument éviter cette sorte d'ambiguïté générale, inscrite elle aussi dans le paysage urbain, dans le mode de vie, cette sorte de mélange effrayant qui, pour lui, ne pouvait aboutir qu'à des conflits terribles et à des souffrances affreuses. Donc, véritablement, il y avait une cohérence dans sa politique qui était très grande.
Il y a ce souci constant que nous avons vu de ne pas voir la colonisation comme vouée à être définitive, mais comme destinée à préparer l'émancipation du peuple que l'on a provisoirement dominé par le protectorat. Et à cet égard, nous allons retrouver un propos fameux du général de Gaulle. Le général de Gaulle, dans la conjoncture particulière de 1961, juste après le putsch des généraux et son échec, lors du transfert des cendres du maréchal Lyautey aux Invalides, cendres revenant du Maroc, on est le 10 mai 1961, De Gaulle a fait un discours où il s'exprime de la sorte, et vous allez voir qu'il va utiliser l'héritage de Lyautey, proclamant la nécessité qu'une colonisation soit provisoire en cas de protectorat, au profit évidemment de sa politique du moment de désengagement en Algérie.
Ce n'est pas du tout à l'abaissement d'un empire et à la domination d'un pays qu'il tendit son action de résident général de France au Maroc, mais au contraire à la consolidation d'un État souverain, au développement d'une élite et d'un peuple, pour les aider à devenir capables de porter un jour les responsabilités de l'indépendance et de la civilisation. Voici en quels termes il exprimait cela dans un rapport au gouvernement. Il faut regarder bien en face, écrivait-il, la situation du monde, notamment du monde musulman, et ne pas nous laisser devancer par les événements. Ce n'est pas en vain qu'ont été lancées à travers le monde les formules du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les idées d'émancipation et d'évolution dans le sens révolutionnaire. il faut bien se garder de croire que les Marocains échappent ou échapperont longtemps à ce mouvement général. Qui eût-il de plus clairvoyant et de plus fort que ce que le maréchal écrivait sur l'ensemble de l'Afrique du Nord en 1920, c'est-à-dire au moment même où notre victoire dans la Grande Guerre plaçait au plus haut notre confiance en nous-mêmes et notre prestige dans l'univers. Il y a lieu de prévoir, disait-il, qu'en un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Il faut qu'à ce moment-là, ajoutait-il, et ce doit être le but suprême de toute notre politique, cette séparation se fasse sans douleur et que les Africains continuent toujours de se tourner vers la France.
Une belle citation, Arnaud Tessier, dont on voit évidemment l'usage que De Gaulle peut en faire en 1961. Propos d'autant plus frappant dans la bouche de Lyautey qu'on est là une dizaine d'années avant l'exposition coloniale de 1931, dont il sera le commissaire général, qu'il incarnera avec toute la majesté de sa figure historique, qui est l'acmé, l'apogée de la puissance coloniale de la France. Et bien, dès ce moment-là, Lyautey prophétise que... il va falloir décoloniser, évidemment, De Gaulle s'en sert d'une façon que vous avez vue.
Oui, Lyautey avait vu assez tôt, notamment, cette idée a été renforcée chez lui par la dislocation de l'Empire ottoman après la guerre de 14. Il était hanté par l'idée qu'il y avait des forces religieuses à l'œuvre, une force de l'islam qui prendrait de l'ampleur dans les décennies à venir. Ça, déjà, c'est une idée qu'il avait en tête. Et donc, il assumait tout à fait l'idée qu'il était important pour la France d'avoir des liens avec un pays où le politique et le religieux étaient associés très fortement à travers la personne du roi du Maroc, un pays comme le Maroc qui était très, très, très attaché à la France. Donc déjà, il y avait cette idée. Et puis, effectivement, De Gaulle s'en sert, puisqu'en 1961, d'ailleurs, je crois que la fin du discours, c'est le maréchal Lyautey n'a pas fini de servir la France. On a envie d'ajouter, il n'a pas fini de servir le général De Gaulle, parce qu'il se sert littéralement de cette vision prophétique de Lyautey au service de sa politique de décolonisation, surtout en Algérie.
L'ensemble de l'Afrique du Nord, ce propos de Lyautey est évidemment mis en exergue par De Gaulle.
Voilà, et puis De Gaulle savait que ce que Lyautey pensait de la situation algérienne et du pessimisme extrême qu'il manifestait à son sujet. Puis en même temps, ce que dit De Gaulle est vrai. Il exprime tout à fait ce côté visionnaire de Lyautey sur l'évolution du monde que les événements, quand même, internationaux, depuis un certain nombre d'années, ont confirmé. Donc il y avait quand même cette dimension. Et c'est pour ça que je pense que De Gaulle a été fasciné par Lyautey, même si les hommes se sont à peine connus, je crois qu'ils se sont croisés, si leurs destins ont été assez différents, puisque De Gaulle a eu le destin politique national que Lyautey aurait aimé avoir, mais qu'il n'a pas eu pour diverses raisons, et qu'il s'est forgé en fait au Maroc. Entre De Gaulle et Lyautey, il y a des points communs. Il y a véritablement ces deux versants, deux personnalités assez, assez différentes, mais en même temps, il y a chez eux ce partage du sens d'une vision.
Intéressant ouais. Parallèle, oui. Ouais. L'idée aussi qu'il faut qu'ils laissent trace de leur action au service du futur, ce qui, dans le cas de Lyautey, peut nous intéresser, puisque... on peut s'interroger sur son héritage. À l'époque, on a parlé du choc des civilisations. On s'est beaucoup interrogé sur la relation entre l'Occident et l'islam.
Lyautey redoutait le choc des civilisations. Il le redoutait. Il était véritablement... D'abord, il avait été impressionné, terrifié par la Première Guerre mondiale, puisqu'il parlait, lui, plus qu'aucun autre de guerre civile européenne. Il considérait véritablement que c'était une guerre civile. Et je crois qu'il voyait que le monde était en train de bouger de manière spectaculaire. Il a toujours été très... très intéressé par les grands mouvements tectoniques de la planète, dès la 30e année, dans sa quarantaine, à partir du moment où il a pris le grand large pour l'Indochine, on voit dans ses lettres qu'il commence à voir les grands morceaux du monde qui évoluent, l'Amérique, l'Asie. Et ça, je crois que ça fascinait aussi De Gaulle, parce que c'était véritablement un point commun qu'ils avaient ensemble. C'est de façon très mondiale de voir les choses.
De Gaulle n'a jamais songé à être du côté de ces militaires coloniaux qui ont été notamment Gallieni que nous évoquions et Lyautey. Il appartient plutôt à la branche des militaires continentaux, on va rester en...
Oui, et puis c'est pas la même génération, c'est une génération postérieure. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une différence entre les deux hommes, qui fait d'ailleurs que Lyautey n'a pas fait de carrière politique nationale, alors qu'il y songeait, hein. Il y a songé après la guerre de 14. Il voulait même que Maurice Barrès lui serve un peu de porte-plume, et Barrès ne voulait pas, parce qu'il considérait que Lyautey n'était pas du tout fait pour ça, et Barrès n'avait pas envie de jouer ce rôle. Et donc Lyautey n'était pas capable d'assumer une part de la politique, la grande politique, qui est quand même, à un moment donné, de se salir les mains. D'être capable de mentir un peu, d'être un peu machiavélien, quand même, selon l'expression consacrée. Contrairement à De Gaulle, qui était capable, quand même, de faire cela, et plus d'une fois. Et donc, c'est la différence entre les deux hommes, je crois, qui, par ailleurs, partageaient cette très grande intelligence, et puis cet esprit très, très global, un peu comme Bonaparte, qui consistait à pouvoir embrasser tous les domaines d'une vie publique.
Le style aussi.
Oui, le style.
Lyautey a du style, on le voit dans les milliers et milliers de lettres en particulier, qu'il peut adresser à ses proches.
Oui, d'ailleurs, je crois que lorsque ses amis l'ont fait entrer à l'Académie française, c'était vraiment pour faire entrer un écrivain et non pas un maréchal pour le titre, si j'ose dire.
Il en avait témoigné déjà très jeune, avec un article qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelait « Consacré au rôle social de l'officier » en 1891, et qui était porté non seulement par une démonstration comme quoi l'officier devait être autre chose que simplement un combattant potentiel, mais aussi par le style.
Oui, par le style extrêmement élégant, extrêmement concis. C'est un petit livre qui a fait forte impression dans le milieu politique et littéraire parisien, qui est paru en 1891, et qui, par ailleurs, est là aussi quand même assez visionnaire, puisqu'il développe une philosophie du rôle social de l'armée et de l'officier en particulier, du rôle intégrateur du service universel, du service national, qui en réalité va correspondre tout à fait à la façon dont le service militaire va être porté ensuite par la République au XXe siècle.
Mais ça, c'est dépassé.
Là, c'est dépassé. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'il dit n'est pas dépassé.
Il y a toute une réflexion, effectivement, sur les relations qui me paraît très moderne entre le monde militaire et le monde civil, puisque lui-même a été à cheval entre les deux, général et en même temps résident, c'est-à-dire ayant un rôle à la fois militaire et politique. De ce point de vue-là aussi, il me semble que son héritage peut être assez éclairant.
Il concentrait le pouvoir civil et le pouvoir militaire, mais il avait avec lui des militaires de très bon niveau. Il était lui-même un excellent militaire, un excellent tacticien, mais enfin c'était surtout un politique, et il avait une vision extrêmement claire de la subordination quand même des militaires à un ordre politique. Et c'était la cause de son départ, de sa démission en 25 au moment de la guerre du Rif. C'est précisément quand on lui a envoyé Pétain avec le commandement militaire, qu'on lui a retiré le commandement militaire, il considérait...
Choc des maréchaux.
Voilà, qu'il ne pouvait exercer véritablement un pouvoir quelconque là-bas que s'il cumulait le pouvoir civil et le pouvoir militaire, au moins le temps nécessaire à ce que la situation se stabilise et ce que le protectorat prépare l'émancipation du Maroc.
De ce point de vue-là, ce départ, Arnaud Tessier, ce départ au moment de la guerre du Rif est assez symbolique, puisque c'est aussi une sorte d'échec que cette apparition d'une révolte à partir de ces montagnes du nord du Maroc.
On a dit que Lyautey perdait le contrôle de la situation militaire. Lui disait que non, il disait simplement qu'il lui fallait un minimum de moyens militaires qu'on ne lui donnait pas, et qu'ils sont arrivés avec Pétain. Pétain est arrivé avec des effectifs, des moyens aériens, des moyens techniques extrêmement développés, et a en fait pratiqué une guerre assez moderne qui a permis de venir à bout de la rébellion rifaine, dont Lyautey, ces moyens dont Lyautey n'avait pas disposé. Donc il a dit ensuite qu'on l'avait délibérément privé des moyens d'agir, qu'il aurait, il serait arrivé à juguler la révolte rifaine s'il avait eu le temps et les moyens.
Oui, Pétain désavoue la politique indigène, citation de Lyautey, et il recommande l'emploi massif de tout le matériel moderne puissant dont nous disposons, c'est Pétain qui parle, aviation de bombardement, chars d'assaut, automitrailleuse. On est là aux antipodes exacts de la politique de Lyautey. Et évidemment, vu d'aujourd'hui, Lyautey est beaucoup plus moderne et beaucoup plus proche des sensibilités contemporaines.
Et c'est très frappant de voir, encore une fois, les moyens considérables que le gouvernement français a mis pour écraser la rébellion Rifaine, qui était le gouvernement du cartel des gauches, d'ailleurs.
Alors, c'est le départ. 10 octobre 1925, Lyautey démissionne et entre dans une retraite qui ne sera d'ailleurs pas du tout laissée à elle-même, puisqu'il est très honoré, je le disais, qu'on le charge de l'exposition coloniale de 1931, mais qui, néanmoins, est forcément chagrine. C'est ce moment-là qu'évoque un de ses collaborateurs qui a été son aide de camp, Vladimir d'Ormesson. Celui que Jean d'Ormesson appelle oncle Vladimir, qui a été un des patrons du temps et ensuite ambassadeur de la République après la guerre auprès du Saint-Siège. Vladimir d'Ormesson est interviewé ici par Pierre Lost sur France Culture le 30 septembre 1970.
Auriez-vous encore un ou deux souvenirs à nous raconter ?
Oh, c'est-à-dire que si je me laissais aller pour ne pas parler de Lyautey, je pourrais parler toujours. Mais je dirais simplement que la fin de la vie de Lyautey a été tragique. Elle a été tragique parce que cet homme sentait venir la guerre. Le génie de Lyautey était en grande partie fait de son instinct. C'était un homme qui possédait un instinct puissant. Il avait comme des antennes de l'avenir. Et il voyait la situation internationale se dégrader, il voyait les orages s'accumuler, il voyait une guerre nouvelle se profiler. Il était européen plus que tout au monde, et il pensait qu'une nouvelle conflagration entre la France et l'Allemagne, qui entraînerait une conflagration mondiale, serait de la pire des calamités. Et alors, il a vécu les dernières années de sa vie, il est mort en 1934, par conséquent 6 ans avant la guerre. Mais on peut dire qu'il la prévoyait, qu'il la sentait. Il en était absolument bouleversé. J'ai des lettres de lui bouleversantes, parce que Lyautey, vous savez, avait toute sa vie eu l'habitude de prendre quelqu'un comme correspondant pour se débourrer. Lyautey était un grand nerveux, c'était un grand nerveux. Et pour décharger ses nerfs, de temps en temps, il avait besoin d'écrire. Et il a eu comme ça plusieurs correspondants, Eugène Melchior de Vauguet et d'autres. Il m'a fait le grand honneur, après que j'ai été son officier d'ordonnance, de me prendre comme son correspondant. Si bien que j'ai 450 lettres de Lyautey qui sont toutes les lettres de la fin de sa vie. Sa dernière lettre date de 8 jours avant sa mort, dans laquelle il se débourre. Ce sont des lettres pathétiques et qui montrent que cet homme qui avait atteint au maximum de la gloire sur la terre, eh bien cet homme était malheureux et vous disait « j'ai raté ma vie ».
Une citation, si vous voulez, Arnaud Tessier, pour illustrer ça, une citation d'une lettre à Vladimir d'Ormesson, c'est une lettre du 11 novembre 1926, donc le jour anniversaire de l'armistice. Il lui écrit qu'il se sent une épave. Qu'y a-t-il au bout de tout cela comme action créatrice et comme réalisation ? Rien. Un vieux monsieur qui aura 72 ans dans 6 jours, qui avait cru avoir rétabli toute une doctrine de régime colonial sur des bases indiscutables, qui s'attendait à la retraite, mais l'envisageait comme le couronnement d'une œuvre faite. Or, la réalité, c'est que, moi vivant, j'assiste à la ruine quotidienne de mon œuvre, à son dépeçage, morceau par morceau, je vis en marge de mon pays. Fin de citation.
Oui, il avait des tendances par moments un peu dépressives.
Il a songé à se suicider, me dites-vous.
Oui, et même il a été très près de se suicider en 1909, alors qu'il avait 55 ans et qu'il était général de division. Enfin, il a fait la lettre qu'il laissait à son officier d'ordonnance, expliquant. Enfin, le suicide n'a pas eu lieu, mais on a gardé le document. Il ne l'a pas détruit, d'ailleurs, comme s'il avait voulu laisser ce témoignage. Et donc, c'est un homme qui était livré par moments au doute et qui considérait qu'il fallait agir pour la collectivité, pour se dépasser un petit peu. C'était sa psychanalyse à lui. Dans le livre de Mauroy, il y a un passage que Mauroy n'a pas gardé.
Écrit du vivant et publié du vivant de voilà. Lyautey, c'est toujours différent quand on portraiture quelqu'un qui est encore là pour vous lire.
Alors le livre est déjà... Il y a beaucoup de choses. C'est un beau livre quand même. Mais il y a 2 pages qu'il n'a pas gardées, que je possède d'ailleurs du tapuscrit de Mauroy, où Lyautey lui tient des propos... au début des années 30, de profonde dépression, en disant effectivement, dans le style « j'ai raté ma vie », regardez tous ces imbéciles, alors il parle des généraux qui sont en place, des politiques qui sont en place, on ne songe même pas à m'utiliser, alors je pourrais encore faire des choses formidables, même à mon âge, etc. Donc il y a ce côté...
Même à 72 ans.
Oui, ce côté, et ce que dit Vladimir d'Ormesson est dit par d'autres de ses collaborateurs, l'ont raconté, hein, c'est quelque chose d'étonnant. Et sa vie, c'est presque 80 années de vie, très remplie, c'est quand même une sorte de combat permanent contre l'abattement et contre l'abandon.
Un peu cyclothymique en somme.
Oui.
C'est une tentation qui n'était pas absolument absente de la psychologie du général de Gaulle, puisque nous esquissions un parallèle. Mais cela nous entraînerait oui, trop loin. Je voudrais que nous concluions notre conversation, Arnaud Tessier, en nous demandant comment a évolué jusqu'à présent. Nous avons démontré l'actualité d'Hubert Lyautey, j'espère efficacement, mais comment cette actualité a pu s'effacer ou réapparaître aux yeux des contemporains depuis sa mort en 1934.
Lyautey est un personnage un peu paradoxal, parce que je crois qu'il est resté très présent dans les mémoires, dans l'actualité, dans le souvenir collectif, assez longtemps. Et puis il y a eu une sorte d'éclipse qui s'est produite à partir des années 70-80.
Vichy l'avait saisi comme pouvant porter un message anti-républicain, évidemment.
Oui.
La République n'a pas laissé Lyautey être un bon ministre de la guerre, le Parlement l'a rejeté, etc. On a toutes sortes de déclarations de ce type à Radio Vichy et Radio Paris.
Voilà, il y a eu une tentative de récupération, comme il y en a eu pour d'autres personnages, mais qui paraissent particulièrement vaines s'agissant de Lyautey, qui était tellement en mauvais terme avec Pétain qu'on a du mal à imaginer la moindre complicité possible.
Et depuis le RIF, notamment.
Qui était un homme, quand même, qui était plutôt porté à désobéir et à refuser qu'à suivre le mouvement général.
Donc, il a dit que Pétain avait fait carrière en obéissant.
C'est Cocteau qui rapportait cela. On ne sait pas si c'est apocryphe. Il disait qu'un jour, Pétain dit à Lyautey, « Bien voyez-vous, je suis devenu maréchal parce que j'ai toujours su obéir. » Et que Lyautey lui aurait répondu, « Bien voyez-vous, moi, je suis devenu maréchal parce que j'ai toujours su désobéir. » Alors peut-être cette histoire a-t-elle été un peu arrangée par Cocteau, comme tant d'autres choses. Mais enfin, je crois quand même que ça traduit un petit peu une divergence de caractère qui est importante.
Eh bien, nous aurons terminé notre conversation avec Cocteau comme nous l'avons commencé. J'espère que nos auditeurs ont été, comme nous, persuadés que Hubert Lyautey a encore des choses à nous dire, notamment quant aux relations entre l'islam et les civilisations issues du christianisme et de l'esprit des Lumières.
Oui, et sur cette notion de respect mutuel et de respect de soi-même et de la façon dont les civilisations doivent être conscientes de leur propre histoire.
C'est l'anti-Huntington, l'auteur du Choc des civilisations.
Par certains côtés, oui.
Vous avez donc donné une biographie de Lyautey, Arnaud Tessier, en 2004, chez Perrin, qui a été rééditée dans la collection Tempus en 2009. Votre dernier ouvrage, il sort ces jours-ci, on le trouvera tout juste dans les librairies, est consacré à Charles Péguy. Péguy est effectivement, je ne dirais pas à la mode, mais il attire l'attention de beaucoup d'auteurs en ce moment à cause de sa mort. Il y a tout juste un siècle, au tout début de la Grande Guerre. Je tiens à rendre hommage, d'autre part, à un auteur qui a beaucoup compté pour faire mieux comprendre cette période du protectorat marocain et la personnalité de Lyautey. Il vous a d'ailleurs été très utile, c'est Daniel Rivet, le professeur Daniel Rivet, qui a notamment consacré sa thèse à ce sujet, oui. Lyautey et l'institution du protectorat français au Maroc, 1912-1925. On peut trouver naturellement ce livre, il a été publié chez l'Harmattan en 1983. Il vous a été utile?
Ah oui, c'est la référence absolue sur le protectorat et sur Lyautey, avec cette très 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 amusant, très humoristique de l'auteur, de Daniel Rivet, qui dit que malgré tout, toutes les précautions qu'il a pu prendre en termes méthodologiques, il n'a pas pu s'empêcher d'être entraîné par la séduction qu'exerçait Lyautey.
Très bien, mais nous avons peut-être aujourd'hui persuadé de cela nos auditeurs. Vous pourrez trouver une bibliographie complète, vous le savez, sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, vous avez peut-être vu dans la presse, Arnaud Tessier, que la Tour Eiffel est saisie, si je puis dire, de quelque agitation. En tout cas, qu'il y a des problèmes concernant sa modernisation. Eh bien, nous interrogerons sur la question de savoir si elle est vraiment intemporelle. Et j'inviterai son historien, Bertrand Lemoine. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Cédric Châtelus, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archivinas, Gwen Michel. Et dans quelques instants, je passerai le témoin à Dominique Rousset et à ses invités pour l'économie en question.